On l'a vu, les relations entre Israël et son plus vieil allié, les États-Unis, se tendent ces dernières semaines. Ron Dermer, ministre des Affaires stratégiques israélien et proche du Premier ministre Benjamin Netanyahou, a rencontré, c'était mardi, le secrétaire d'État à la Sécurité nationale américaine, Jake Sullivan, à Washington. On écoute l'analyse qu'en fait André Caspi, historien et spécialiste des États-Unis à ce sujet.
Le ministre des Affaires stratégique israélien Ron Dermer a rencontré à Washington le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan hier pour discuter de la coopération israélo-américaine dans le cadre de la guerre entre Israël et le Hamas. André Caspi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien spécialiste des États-Unis. Comment cette réunion entre Ron Dermer, un proche du Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui fait aussi office de quasi-ministre des Affaires étrangères, et Jake Sullivan, donc conseiller à la Sécurité nationale des États-Unis, reflète-t-elle l'évolution des relations diplomatiques entre Israël et les États-Unis depuis le 7 octobre dernier?
Ce qu'il faut dire, c'est que les États-Unis, en particulier la Maison-Blanche, sont particulièrement inquiets de l'évolution de la situation à Gaza, pour plusieurs raisons. La première, la plus importante, c'est que, comme vous le savez, Joe Biden entre dans la période des élections présidentielles et il sait que son parti est divisé. À l'intérieur du Parti démocrate, il y a une aile gauche qui est très favorable aux Palestiniens, très défavorable aux Israéliens et qui réclame à corps et à cri que les États-Unis cessent de soutenir Israël comme cela a été fait depuis le 7 octobre. Alors, Joe Biden cherche une solution qui permettrait en somme de maintenir l'appui qu'il accorde à l'État d'Israël tout en faisant pression sur les Israéliens pour que les bombardements sur Gaza cessent ou en tout cas ne continuent pas trop longtemps. Donc, si vous voulez, il y a une sorte de faux fuyant de la part des États-Unis qui consiste à dire « nous soutenons Israël, mais pas trop, et nous désapprouvons ce que Israël fait à Gaza, mais pas trop ». C'est-à-dire qu'au fond, la position des Américains n'est pas très claire en ce moment, surtout en ce qui concerne évidemment les Américains qui sont au pouvoir, c'est-à-dire les démocrates et particulièrement Joe Biden, le président. Ce qui fait que les réunions entre des responsables israéliens et les responsables américains ont pour but de dissiper les obscurités, de dissiper les équivoques et en même temps de donner satisfaction du côté américain à une opinion qui est de moins en moins favorable à Israël et de plus en plus favorable à une sorte de pression qui serait exercée sur Jérusalem pour que les bombardements à Gaza cessent et cessent en tout cas le plus rapidement possible.
Est-ce que c'est un changement de cap? Comment analyser ce haussement de ton entre Israël et les États-Unis?
Écoutez, vous savez, depuis le 7 octobre, il s'est produit beaucoup de choses. Et en particulier, les États-Unis se trouvent isolés en ce sens que sur le plan international, ils restent quand même la seule puissance à soutenir Israël sans trop d'équivoques. Je dis sans trop d'équivoques. Parce que, évidemment, il y a un certain nombre d'États qui manifestent leur sympathie pour Israël, mais qui en même temps manifestent une sympathie qui est peut-être encore plus forte à l'égard des Gazaouis qui subissent les bombardements israéliens. Et puis, il y a un autre facteur qui entre en jeu, c'est qu'aujourd'hui, au Moyen-Orient, les choses se passent mal. Les Houthis envoient des drones en mer Rouge sur les bâtiments qui passent par cette mer. D'autre part, il y a eu des incidents contre les Américains en Irak. Et puis, il y a toujours cette menace du Hezbollah en Iran. C'est-à-dire qu'en fait, le Hezbollah au Liban représente l'Iran, les Houthis représentent l'Iran, Et ce qui se passe en Irak, c'est aussi l'Iran. C'est-à-dire qu'au fond, tout cela montre que les Américains sont de plus en plus impliqués dans les conflits du Moyen-Orient, à un moment où la Maison-Blanche souhaiterait qu'il n'y ait pas d'implication plus forte parce que l'on entre dans une année d'élection présidentielle. Alors, c'est ce qui explique, si vous voulez, que du côté des Américains, le soutien à Israël reste évidemment une réalité internationale. On l'a bien vu tout récemment aux Nations Unies, mais c'est un soutien qui est certainement moins appuyé qu'il ne l'a été dans les semaines précédentes.
En considération de la participation de Ron Dermer, qui est un proche de Benjamin Netanyahu, comment cette dimension personnelle et relationnelle entre en jeu dans la dynamique des relations diplomatiques entre Israël et les États-Unis?
D'après ce que l'on sait, Netanyahu tient à Joe Biden le langage suivant. Laissez-moi encore quelques semaines pour agir à Gaza, et puis après, à ce moment-là, nous trouverons une autre solution, mais il y a quand même toute une série d'obscurités. Première obscurité, que deviennent les otages? Est-ce qu'il y a encore des otages vivants? Ça, c'est une question qui est particulièrement angoissante. Alors, en principe, oui, il y a des otages qui ont été tués. Est-ce qu'il y a encore beaucoup d'otages à sauver? Ça, c'est la première question. Deuxième question, est-ce que l'on donne la priorité au sauvetage des otages ou est-ce qu'on donne la priorité à l'anéantissement du Hamas? Jusqu'à maintenant, Benjamin Netanyahou a plutôt donné la priorité à l'anéantissement du Hamas. Ce qui veut donc dire que sa position consiste à dire « nous n'avons pas fini le travail, il faut que nous le poursuivions et pour le poursuivre, il faut que les Américains acceptent que les Israéliens continuent de bombarder Gaza et de faire des centaines et des milliers de victimes et de victimes civiles. » Et de victimes civiles qui contribuent justement à alerter l'opinion internationale et à donner le mauvais rôle aux Israéliens, alors qu'en fait, les Israéliens sont en premier lieu et tout d'abord les victimes de cette guerre, puisque tout a commencé le 7 octobre avec les centaines de morts israéliens, des morts qui ont été le résultat de cette attaque particulièrement violente de la part du Hamas dans le sud de l'État d'Israël. Donc, si vous voulez, il y a un retournement de la situation qui fait que la position des Israéliens et la position des Américains ne coïncident plus exactement à 100%. Il y a encore bon nombre de points communs, bien sûr, puisque je répète que les États-Unis n'ont évidemment pas abandonner Israël, mais les États-Unis font pression sur Israël pour que les choses aillent plus vite, c'est-à-dire pour que plus vite les Israéliens arrêtent ces bombardements sur Gaza qui contribuent à retourner l'opinion internationale contre Israël.
Alors, vous l'avez dit, il y a un certain nombre de sujets abordés à l'agenda pendant cette rencontre, dont la gestion des otages, dont un certain nombre de problématiques. Les sujets abordés lors de la réunion comportent aussi notamment la gouvernance et la sécurité à Gaza. Quelles leçons historiques peuvent être tirées des efforts antérieurs visant à stabiliser la région après des conflits similaires?
Écoutez, ce qui est aussi particulièrement angoissant, c'est de savoir ce que deviendra Gaza. C'est-à-dire, est-ce que Gaza passera sous l'autorité de l'autorité palestinienne, mais l'autorité palestinienne aujourd'hui ne représente plus grand-chose. Est-ce que les États arabes de la région interviendront directement dans la gestion des affaires politiques à Gaza? Est-ce qu'il y aura un rôle particulier de l'Égypte? Et puis aussi, que fera exactement ou qu'acceptera exactement l'État d'Israël? Voilà autant de questions auxquelles, pour l'instant, on n'a pas de réponse précise. Donc, ça signifie qu'on est dans une période d'incertitude sur le déroulement des combats et d'incertitude sur l'avenir même de cette parcelle qui correspond à quelques milliers de kilomètres carrés et dans laquelle il y a des centaines de millions, de centaines de milliers, pardon, d'habitants qui souffrent à la fois du manque de nourriture, des bombardements, c'est-à-dire en fait qui sont véritablement les victimes immédiates de l'intransigeance du Hamas et de la volonté d'Israël de réduire le Hamas.
Et alors, du coup, selon vous, quel sera l'impact de cette réunion sur les développements futurs de la guerre à Gaza qu'on peut imaginer?
On ne peut pas continuer sur cette lancée si on n'a pas non plus des buts de guerre qui soient clairement affirmés. Et parmi les buts de guerre, moi, j'en soulignerai un qui me paraît essentiel, c'est la libération des otages. Parce que si les otages sont encore vivants, et une partie d'entre eux, malheureusement, sont certainement morts, si les otages sont encore vivants, il faut obtenir leur libération. C'est absolument indispensable. N'oublions pas que ces otages sont.
Comment est-ce que Washington pourrait avoir une influence enfin, dans le déroulement du
Oh, Washington
conflit?
ne manque pas de moyens d'exercer son influence, ne serait-ce que par la livraison d'armement, mais aussi par l'aide financière qui est accordée à l'État d'Israël. C'est une aide financière qui correspond à plusieurs milliards de dollars. Alors, c'est un petit peu moins que pour l'Ukraine, mais d'un autre côté, quand on considère que les États-Unis aident Israël depuis déjà très longtemps, le montant est supérieur au montant qui est accordé aux Ukrainiens. Donc, ça veut dire que dans cette période électorale, les États-Unis, ou la Maison-Blanche en particulier, doivent justifier cette aide, doivent montrer en somme à la population américaine que cette aide correspond à la politique extérieure des États-Unis. Et d'un autre côté, je le répète, à l'intérieur du Parti démocrate, il y a une bonne partie des militants qui sont hostiles à ce que fait Joe Biden et qui considèrent qu'il faut passer du côté des Palestiniens et contraindre les Israéliens à arrêter les bombardements. Alors, évidemment, ce n'est pas la majorité des Américains, mais ça veut dire quand même que l'opinion publique américaine a cessé d'être complètement aux côtés des Israéliens et commence à basculer, ou elle a plutôt déjà commencé à basculer du côté des Palestiniens.
Eh bien, André Caspi, je vous remercie d'avoir répondu aux questions de Radio Judaïka. Je rappelle que vous êtes historien spécialiste des États-Unis. Merci beaucoup.
Et merci à vous. Au revoir.